Bienvenue sur ton bac de français en poche, moi c'est Anaïs. Je suis toujours professeur particulier, j'accompagne les élèves, les lycéens notamment, qui souhaitent passer leur bac de français et le réussir si possible. J'accompagne aussi certains collégiens qui passent leur brevet, des lycéens qui passent des concours. Bon, je fais pas que le bac de français, mais c'est quand même ce que je préfère faire et c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast. Et je suis toujours coach de vie, donc j'accompagne les personnes qui ont un objectif à atteindre ou un problème à résoudre. Je les accompagne afin qu'ils puissent se réapproprier leur identité, leur vie, leurs rêves. C'est vraiment, on va dire, ma ligne directrice. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode ultra important. Oui, je sais, je dis toujours ça, mais bon, là, franchement, c'est vrai. C'est hyper important puisqu'on va parler de figures de style. Je pense que tu connais tes figures de style, mais c'est pas pour autant que tu t'en sors en interprétation, en analyse. Il y a peut-être un gap entre les deux et que tu n'arrives pas à combler. Donc justement, l'idée aujourd'hui, c'est de t'aider à bien utiliser tes figures de style et pas simplement les placer dans ta copie comme si c'était des mots-clés, en fait. Ça va te servir à rien. C'est pas des Pokémon que tu essayes de récupérer dans le texte, hein, d'accord ? Ça fonctionne pas du tout comme ça. On essaye vraiment de les interpréter à chaque fois. Donc, je t'invite à télécharger la petite fiche qui accompagne l'épisode, comme d'habitude, elle sera très utile. Et on y va, c'est parti! On va commencer tranquille, on va déjà s'intéresser à la définition. Et oui, comme toujours, je sais que je suis pénible avec ça, mais il faut toujours savoir de quoi on parle. Hein. Ça, je pense que c'est un toc que j'ai pris de toutes les dissertes que j'ai fait. Hein. Une dissertation, c'est toujours définir, on commence toujours par définir, définir, définir. Et donc, c'est valable. Mon épisode est un peu construit comme une disserte, hein, mine de rien, on dirait pas, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Donc oui, je vais commencer par définir les termes de mon sujet. Donc c'est quoi une figure de style ? Une figure de style, de base, c'est un outil qui permet de sortir du langage ordinaire. Il faut bien comprendre ça, ça permet d'entrer dans un langage beaucoup plus expressif, beaucoup plus travaillé. Donc on sort du langage du quotidien, du langage qu'on pourrait appeler utilitaire, qui sert juste à travailler, se comprendre les uns les autres, et on entre dans un langage beaucoup plus travaillé, où on va avoir des effets de sens qui va venir enrichir en fait les messages qu'on veut faire passer. Voilà, pour qu'on soit bien clair. Elles trouvent leur origine dans l'Antiquité. Elles appartiennent à la rhétorique. La rhétorique, c'est cet art de bien parler, de bien dire les choses, mais aussi de bien écrire, bien évidemment. C'est une des branches de la rhétorique. Les figures de style appartiennent en fait à l'élocutio. L'élocutio, c'est un peu le style, la manière dont on va utiliser les mots pour impacter, en fait, pour rendre le message plus impactant. Voilà, bref. Si je résume, en fait, les figures de style, c'est des outils qui permettent d'améliorer le langage, de le customiser, hein, un petit peu, et de le rendre plus impactant. En gros, de manière très générale, hein, je simplifie un peu, mais une figure de style, elle a toujours, peu importe la figure, elle aura toujours au moins deux interprétations possibles. Un, donner de la force au propos, le rendre plus impactant, en fait, hein, tout simplement. Elle va avoir une visée argumentative, elle va chercher à persuader, à convaincre l'auditoire. Première interprétation possible. Ou deuxième interprétation, elle peut avoir une visée esthétique, donc elle va peut-être amener de la grâce, de la beauté dans le message. Elle va embellir le propos et elle va devenir en fait une espèce de, comment dire, d'amélioration esthétique du message et donc un ornement du message, un ornement du discours. Et à ce moment-là, on va plutôt émouvoir, on va toucher le lecteur, ça va lui plaire, mais au sens esthétique. Voilà. Donc ça serait les deux grands axes, en fait. Déjà, convaincre, apporter de la force au propos, ou simplement embellir le propos, et donc émouvoir. Déjà, hein, on a deux grandes lignes qui sont toujours valables. Enfin, selon les cas. Mais c'est deux lignes auxquelles on peut se raccrocher. Pour t'aider à bien comprendre c'est quoi une figure de style, tu peux t'aider de la distinction entre le sens propre et le sens figuré d'un mot. On parle d'un sens propre quand on dit, en gros, quand on comprend le mot dans son sens premier, son sens le plus courant. Hein. Quand on va renvoyer à la signification habituelle du mot. Et on parle de sens figuré quand on va prendre le mot, mais dans un sens plus imagé, plus poétique. Je vous donne un exemple. Le ciel, dans son sens propre, bah, ça renvoie tout simplement à un élément physique, naturel, etc. Et dans un sens figuré, je peux dire « il est au ciel ». Il n'est pas accroché à côté des nuages, mais il est mort. Hein, vous voyez, c'est plus poétique. Bon, je pense que vous avez compris le truc. Alors, là, c'était une petite intro tranquille. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Comment vraiment ne pas, entre guillemets, se faire avoir et ne pas simplement balancer la figure de style dans la copie? Il faut bien comprendre que les figures de style, elles ont un fonctionnement assez simple. En fait, il ne faut pas s'en faire tout un monde. Une figure de style appartient en général à une famille de figures. Alors, je fais exprès de dire famille, hein, je simplifie. À une famille de figures. Par exemple, l'antithèse, elle appartient à la famille des figures de style d'opposition. Elle ressemble beaucoup à l'oxymore, qui appartient à la même famille. Donc ça, c'était pour que tu puisses bien visualiser. Donc, en gros, selon les familles, on va voir qu'il y a un axe d'interprétation qui coule de source presque, j'exagère, mais qui est assez simple du coup à comprendre. Donc on a plusieurs familles, on peut les recouper en... ça dépend, mais on peut... Moi je les ai coupées en 8 familles. Comme j'avais donné 8 pistes d'analyse, j'essaie de couper en 8 familles pour que ce soit plus facile à retenir. Donc 8 grandes familles. Première grande famille, la famille des figures d'analogie. Donc là, c'est un peu le mot compliqué, un peu le mot savant. Mais moi, j'appelle ça les figures, en fait, de rapprochement. On va avoir dedans, par exemple, métaphore, comparaison, personnification, allégorie. Bref, c'est des figures, en fait, qui reposent sur des images. On rapproche deux images. Ces deux images qui sont très différentes, mais qui n'ont rien à voir, a priori. Donc ça crée une surprise. Par exemple, si je dis « soleil coupé », je pense à un verre comme ça, soleil coup coupé, soleil et un coup coupé, tout de suite on se dit ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça va être une métaphore qui repose sur un point commun. Le point commun qui peut être par exemple la forme, le soleil est rond, un coup si on le coupe, c'est un cylindre qu'on coupe, du coup ça devient un cercle, et la couleur, si je coupe un coup à quelqu'un, c'est un peu gore ce que je dis, je viens de m'en rendre compte, désolée, je suis trop spontanée, bah, il va y avoir du sang, donc ça va être rouge, et le soleil parfois peut être rouge. Donc on trouve des points communs. L'idée en fait, dans les figures de rapprochement, les figures d'analogie, c'est d'arriver à voir quel est le point de jonction entre les deux images choisies par l'auteur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire fusionner ces deux images différentes? Donc il faut trouver le point commun. Une fois qu'on l'a trouvé, faut essayer de se demander, bon bah, du coup, est-ce que ce rapprochement, il était positif ou pas? C'était positif ou négatif? Soleil coupé, clairement, c'est un peu glauque quand même. Hein. Ouais, c'est pas trop trop positif. Si je donne une autre figure assez simple, un autre exemple, si je prends ma sœur est comme un démon. Bon. J'en ai donné une qui est pas très sympa pour ma sœur, j'espère qu'elle écoutera jamais cet épisode. Ma sœur est comme un démon, donc j'ai une petite comparaison un peu maladroite, mais c'est juste pour servir mon propos, illustrer mon propos. Ici, le point commun, ça pourrait être peut-être la méchanceté de ma sœur et du démon, hein, le côté maléfique, malveillant, et c'est plutôt péjoratif. Hein. Donc ici, l'analyse, ça va être que je critique un peu ma sœur, je suis un peu en train de dénoncer le côté malveillant que peut avoir ma sœur. Voilà. Donc l'analyse ici, on voit que c'est pas plus compliqué que ça d'analyser une métaphore, une comparaison, une allégorie, etc. Bien rester sur le fonctionnement de cette famille de figures. Deuxième famille, la famille des figures de substitution, ou, que moi j'appelle plus simplement, de remplacement. C'est quand on remplace en fait un mot par un autre ou par une expression. Donc pour les analyser, on va simplement se demander sur quoi repose le glissement. Comment je suis passée d'un mot à un autre? Comment je suis passée d'un mot à une expression? comment s'opère le détournement de sens? Comment je suis passée de ce mot-là à un autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'effet que ça provoque d'avoir changé ce mot-là? Quel lien on peut en faire? On peut faire, pardon. Donc, si je donne un exemple, si je dis l'homme sur la croix, c'est une périphrase qui désigne en fait Jésus-Christ. Mais peut-être qu'en utilisant ce glissement, ce détournement, en utilisant ce remplacement au lieu de dire directement Jésus-Christ, bah j'insiste sur le fait qu'il est sur une croix, pardon, qu'il est cloué sur une croix, donc peut-être que j'amplifie le pathétique ici. Hein, ça montre qu'il a souffert, peut-être. Bon, je donne des exemples un peu vaseux. Hein. Vraiment, là, il est tard. Donc, c'est des exemples qui me viennent. Bon. En gros, dans cette famille, je vais retrouver métonymie, antonomase, je vais retrouver aussi périphrase, etc. Bon, troisième famille de figures, famille très très facile, c'est la famille des figures d'opposition. J'en ai parlé au début, on a par exemple les antithèses, les oxymores, les paradoxes, etc. On va simplement introduire un contraste. Hein, quand j'oppose deux choses, ça crée un contraste, une différence. Je vais mettre en avant une différence. Ou peut-être, je vais révéler, surtout avec un oxymore, par exemple si je dis ce nain géant, bah, je vais révéler peut-être une contradiction. Alors là, on se dit, elle est pas très nette, qu'est-ce qu'elle raconte? Un nain géant, c'est pas possible. Vous voyez, on montre une incohérence. Donc là, on va révéler plus une contradiction qu'une simple opposition. Ça peut créer un effet de surprise ou donner effectivement un effet d'incohérence. Voilà. Donc jusque-là, je pense que tu arrives à suivre. Tout ça, c'est assez facile, en fait, à comprendre et à déduire. On déduit, en fait, l'interprétation du fonctionnement même de la famille de figures, en fait. La famille de figures repose sur un effet, en fait, à chaque fois. Donc on a ensuite la famille des figures de diction. Alors, ça a l'air un peu flippant comme ça, dit comme ça, mais c'est très simple. Les figures de diction, c'est toutes les figures qui travaillent le matériau sonore. Hein. Donc, par exemple, assonance, allitération, paronomase, homéothéleute, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme par hasard, j'en ai plus qui me viennent, les rimes, tout ça. Bref, l'idée ici, ça va être simplement d'apporter de la musicalité au texte, hein, de créer un effet musical. Alors, parfois, ça peut avoir un effet entêtant aussi, ou ça peut chercher, on peut chercher peut-être à recréer un bruit. Donc, on va avoir ce qu'on appelle l'effet d'harmonie imitative. On va imiter un bruit, harmonie imitative. Bon, du coup, cinquième famille, les figures d'amplification. Bon, là, c'est facile, c'est par exemple hyperbole, énumération, épitrochasme, gradation, bon, etc., etc. Les figures d'amplification, elles vont, bah, je t'apprends rien, renforcer le message, le souligner, le mettre en valeur, voilà, vraiment attirer l'attention sur ce message, lui donner de la force. Alors parfois, selon le message, ça peut aussi avoir pour but de se moquer. Hein. Quand je grossis quelque chose, notamment sur une image, hein, si on pense aux caricatures, grossir un trait, ça permet de mieux se moquer. Donc là, on va être sur la parodie, la satire, etc. Bon, figure d'atténuation, bah, c'est l'inverse. On va réduire, donc c'est la sixième famille. On va venir, je me suis pas trompée dans mes calculs, hein. Anaïs, les calculs ne sont pas bons. 2, 4, 6. Non, 6, c'est bon, les calculs sont bons. N'importe quoi. Je me suis embrouillée moi-même, désolée. Du coup, je disais les figures d'atténuation, ça va être simplement l'effet inverse. On va réduire, hein, on va dézoomer, on va essayer de ne pas trop attirer l'attention sur un des éléments, peut-être car c'est une réalité trop difficile, comme dans l'euphémisme. Alors, du coup, septième famille, les figures de construction. Alors, dans les figures de construction, on peut avoir plusieurs effets. Ça va vraiment dépendre du type de construction. Alors, on a des constructions plutôt symétriques, avec des figures comme par exemple le parallélisme, mais aussi l'anaphore, l'hyposeux, etc. Ce type de figure va créer de la symétrie, donc de la clarté. Ça va donner l'effet que le discours est bien organisé, ça va rassurer le lecteur. Hein, voilà, donc l'interprétation qu'on peut en tirer, c'est un effet de clarté, de symétrie, etc. On a d'autres figures qui, elles, vont plutôt créer une construction déconstruite, hein, c'est-à-dire une déconstruction, en fait, plutôt. Hein. Donc, qui vont plutôt être des figures comme, par exemple, le chiasme, les inversions. Alors, j'en ai pas d'autres en tête, mais faudrait voir. Mais toutes ces figures, en fait, qui, par exemple, l'anacolute, oui. Toutes les figures qui vont introduire une rupture, qui vont casser un peu la construction, qui vont perturber. Donc, elles vont... L'analyse qu'on peut en faire, c'est que ça perturbe le lecteur, ça rend le propos beaucoup moins clair, ça donne un effet brouillon, ça peut aussi donner un effet d'enfermement, par exemple le chiasme, avec cet effet inversé, on peut avoir l'impression qu'on est emprisonné dans le chiasme, enfin que les mots sont emprisonnés dans le chiasme, peu importe. Bref. Autre figure de construction, on peut avoir les constructions sous forme de répétition. Alors, la répétition, alors il y a plein de figures là, on a polyptote, anaphore, épiphore, antépiphore, non mais là on s'arrête plus là si on commence à toutes les donner. Mais bon, les figures de répétition, elles vont plutôt avoir bah, soit pour effet de créer des échos, hein, tout simplement, donner l'impression qu'on se répète, hein, voilà, soit on peut aussi les analyser comme des figures qui donnent un peu le tournis. Voilà, on va pas mettre ça dans la copie, bien évidemment, mais cette impression, en fait, de vouloir hypnotiser le lecteur. En fait, c'est des figures qui rapprochent, du coup, le discours de la magie. C'est comme si on jetait un sort. Hein. Si je dis abracadabra, hein, cette formule pourrie que tout le monde connaît, on voit bien que c'est une formule soi-disant magique, mais qui est construite sur une répétition. Parce que cet effet de répétition, il a un côté hypnotique, en fait. Et ça va apporter ce qu'on appelle l'effet incantatoire. Comme si on formulait une incantation magique, qu'on voulait, en fait, hypnotiser notre lecteur. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les figures de construction. Ça dépend de comment est construite, en fait, la phrase. On pourrait aller plus loin, bien évidemment, hein, mais j'essaye de donner un max d'infos et que ça parte pas trop dans tous les sens. Surtout, pendant que j'y pense, désolée, là, pour le coup, c'est un peu, ça part un peu en freestyle, pas d'inquiétude s'il y a des figures que j'ai nommées que tu ne connais pas, aucun stress, d'accord ? Ça ne te servira à rien de toutes les connaître, franchement, je l'ai moi-même, hein, en tant que prof, je ne les utilise pas toutes et pas tout le temps. J'utilise les basiques, vraiment. Donc, ne te stresse pas si tu les connais pas toutes, c'est pas grave. Moi, j'en donne un max pour que ça parle à tout le monde. Mais si tu ne connais pas l'épitrochasme, t'inquiète, tu survivras. Tu peux utiliser largement l'accumulation à la place. Pour info, parce que quand même, ça me démange. L'épitrochasme, c'est une espèce d'accumulation, mais de mots très courts. Donc voilà, tu mets accumulation, énumération, ça le fait largement. Faut pas se prendre la tête. Dernière famille, et on a fini, je suis contente. Figure d'implicite. Donc la famille des figures de l'implicite. En gros, c'est toutes les figures qui vont détourner le message. Donc on peut avoir par exemple l'ironie, mais ça peut aussi être des procédés comme la polysémie, l'ambiguïté, tout ce qui va introduire de l'ambiguïté, un double message, qui peut perturber du coup le lecteur. L'analyse, elle va être assez simple. C'est que du coup, le lecteur joue avec nous. Donc, il y a quelque part un effet un peu de... de détournement. Il y a des mots qui sont détournés, et soit on a capté, et du coup, bah, le lecteur, il est un peu complice de l'auteur, soit on n'a pas capté, et du coup, on est piégé, ridiculisé par le texte. Ça peut être le cas sur des textes argumentatifs très pointus, qui tournent en fait un peu le lecteur en ridicule, hein, ça arrive. Donc c'est surtout une figure, l'ironie, et toutes les figures de ce style-là, qui demande au lecteur d'être très attentif, et qui va souvent servir un discours argumentatif, hein, dénoncer quelque chose, critiquer quelque chose, se moquer aussi, hein, ça peut aussi rejoindre la satire, etc. Voilà, donc là, tu as 8 grandes familles et 8 pistes pour les analyser. Donc déjà, je pense que ça peut largement t'aider à sortir de la paraphrase, pour commencer. Mais, tout ce que je te dis, c'est un peu trop général, c'est de la théorie. Et c'est déconnecté du texte, donc ça ne peut pas être plaqué tel quel dans la copie, hein, bien évidemment. Mais bon, je mets toujours un petit warning, on ne sait jamais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, tu dois le remettre en lien avec ton texte pour que ça redevienne vivant. Là, c'est comme si ce que je te raconte, c'était complètement mort, mais que tu avais besoin de le réanimer en le liant avec le texte. Ça va recréer une connexion et ça va revivifier tout ce que je te dis. Donc, il faut le faire, en fait, entrer en connexion avec le texte, parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, on pourrait analyser tous les textes de la même manière et c'est pas l'idée. Moi, j'essaie juste de te donner de grandes pistes. Bien évidemment, parfois, ça marche pas, ce que je te dis. Ça va pas marcher à tous les coups. Enfin, on va dire, ça peut quand même marcher quand même. À 90%, ça marche. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que ton analyse elle soit plus fine, si vraiment tu vises l'excellence, hein, si tu veux pas juste sauver les meubles, parce que là, c'est plutôt pour sauver les meubles, si tu vises l'excellence, il faut bien comprendre qu'il faudra reconnecter non seulement avec le texte, mais aussi faudra reconnecter tout ce que je viens de dire en fait avec le contexte de publication de l'œuvre, c'est-à-dire le courant, le contexte socio-historique de l'auteur. Et c'est ça, c'est ces éléments-là qui te permettront d'aller plus loin. Par exemple, tu pourras voir que telle figure est au service du romantisme, par exemple, ou que telle figure permet de dénoncer la société de consommation de masse, ou que telle figure permet de dénoncer, je sais pas moi, la guerre. Voilà. Et ça c'est vraiment ta culture G et ta culture littéraire qui vont t'en donner les clés. Bon, je m'arrête là. J'espère que c'était clair. T'as pu voir plusieurs pistes. J'espère que ça t'a rassuré. En tout cas, cet épisode, il commence à être trop long. Donc, faut que je me taise et que je termine. En tout cas, merci pour ton écoute, surtout. On se retrouve dans un prochain épisode. Je vais faire de mon mieux, mais je ne promets rien. Je sais pas s'il pourra sortir assez tôt. Mais j'aimerais faire un épisode très prochainement sur les courants pour pouvoir justement venir finir ce que je disais et pouvoir pousser un peu plus loin l'analyse. Donc ça serait génial, soit sur les courants, soit en gros sur les contextes historiques. Mais là, ça va être une question de timing et je ne peux rien promettre. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à lâcher 5 étoiles. Vraiment, ça m'aide énormément. N'hésite pas aussi à m'écrire en DM, ça me fait trop plaisir. Vraiment, je lis tous les DM, je réponds à tout le monde. Et je reçois même des DM des personnes qui ont passé leur bac l'an dernier. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment, en gros, c'est un travail qui est gratuit, que je fournis de bon cœur. J'ai vraiment envie de le faire et ça me fait vraiment kiffer de le faire. Mais vos messages, ça me dédommage à 10 000% de tout le temps que je passe à préparer, hein, parce que c'est énormément de temps de préparation. Je te laisse sur, comme d'hab, une petite citation et on se retrouve très vite. En tout cas, merci pour ton écoute. Nous sommes, dit Paulo Coelho, notre plus grande surprise. Et je te souhaite vraiment d'être ta plus grande surprise au bac. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de français en poche.